Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien, que tout est OK de votre côté. Marianne Paquette, pour les prochaines minutes, c'est bon pour la santé sur Canal M. Bien, aujourd'hui, on parle de deux phénomènes, deux constats plutôt inquiétants. En deuxième partie d'émission, le virus Zika, dont vous avez probablement entendu parler abondamment, c'est sur toutes les lèvres. Et avec raison, parce que le virus se propage à la vitesse de l'éclair, carrément, en Amérique, du moins là, de 3 à 4 millions de personnes pourraient être infectées en 2016. Un virus qui a de lourdes conséquences, qui est soupçonné d'être responsable, en fait, qui pourrait avoir de lourdes conséquences, là, je tiens à le préciser, qui est soupçonné d'être responsable d'une hausse fulgurante de microcéphalie. Ça, c'est une malformation congénitale qui, entre autres, ça fait qu'il y a des bébés qui naissent avec des petites têtes, des cerveaux anormalement petits. Ça a été déclaré au début du mois de février, urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé, ce virus Zika, pour nous aider à mieux comprendre. Patrick Despaquette, microbiologiste agréé et biochimiste, sera là tout à l'heure pour nous en parler davantage. Et puis, autre phénomène dont on parle beaucoup dans les médias québécois ces derniers temps, la disparition de jeunes filles. Et quelques chiffres peut-être émis notamment par le service de police de Laval pour illustrer le phénomène. On nous dit l'an dernier, en 2015, 918 fugues ont été signalées sur le territoire lavallois. Un peu moins de la moitié des fugueurs, c'était des jeunes filles. On nous dit que comme certaines fugues plus d'une fois, ce serait au total 127 fugueuses sur le territoire toujours à Laval. Et de ce nombre, à peu près une trentaine auraient été exploitées sexuellement durant leur disparition. Peut-être plus, hein, parce que certaines ne portent pas plainte pour diverses raisons. Là, je vous parle de Laval parce que les chiffres semblent plus évident, plus facile à fouiller. Toutefois, il y a des jeunes filles qui disparaissent dans la région de Montréal, ailleurs aussi, en province. Comment mieux protéger nos adolescentes? C'est la question que je pose à Alain Johnson, directeur des services cliniques chez Jeunesse J'écoute. Alain Johnson, bonjour.
Oui, bonjour.
Un peu triste de se parler pour traiter de ce sujet-là, mais en même temps, il faut le faire. Je pense qu'il faut fournir aux parents qui nous écoutent, aux grands-parents aussi, à tous les adultes signifiants de ces jeunes filles et jeunes garçons, on en parlera bien sûr plus tard, des outils pour mieux protéger nos adolescents. Bon, on parle beaucoup, Alain, des centres jeunesse, là, notamment du côté de Laval. Est-ce que ça se passe, ces disparitions, seulement dans ce contexte-là?
Pardon, non, pas du tout. Je pense que c'est sûr que actuellement, avec les événements, les médias, on a beaucoup parlé des centres jeunesse. C'est sûr qu'un jeune qui se retrouve en centre jeunesse, c'est un jeune qui, garçon ou fille, qui vit des situations difficiles, qui est probablement plus vulnérable à différentes choses. Donc, c'est malheureusement peut-être là, un public facile à cibler pour les gens qui veulent profiter de ces jeunes-là. Mais le phénomène de la fugue ou le phénomène d'abus, je veux dire, il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de classe sociale qui sont protégées. C'est pas nécessairement toujours avec des étrangers, des inconnus. Donc, je pense que le phénomène dont on parle aujourd'hui, c'est un phénomène qui, je pense, concerne tous les adultes qui sont en contact avec des jeunes.
Mm-hmm. Donc, pas de profil type chez la jeune fille qui disparaît.
Ben, je vous dirais, c'est sûr, écoutez, dans le fond, qu'est-ce qui va amener une jeune fille ou un jeune garçon à quitter son espace, son environnement, sa famille, son quartier, son groupe d'amis? Dans le fond, c'est un jeune à qui on va offrir quelque chose qui, selon lui ou elle, manque. Alors, par exemple, imaginons une jeune fille à qui on va faire miroiter qu'elle va être une princesse, qu'on va lui donner de l'argent, qu'on va s'occuper d'elle, qu'on va l'aimer. Donc, ça peut venir combler un besoin d'aventure, ça peut venir combler un besoin d'estime de soi. Donc, c'est quelque chose de très attrayant.
Oui.
D'accord? Et à ce moment-là, malheureusement, tout ce qu'on fait de miroiter va passer par-dessus, je dirais, l'espèce de réflexe où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, malheureusement, les défenses, la prudence va tomber.
Oui. Un besoin d'indépendance aussi, Alain, à cette période de l'adolescence où on veut se libérer un peu de nos parents, voler nos propres ailes, ça peut être assez attrayant, que fait miroiter, entre autres, là, les gangs de rue.
Exactement. Et on peut tous repenser à notre propre adolescence où on a probablement fait certaines expériences, peut-être pas aussi intenses, mais où on a voulu s'affirmer, on a voulu explorer nos limites, on a voulu s'affirmer. Et je pense que ça, c'est un phénomène qui est tout à fait normal. Donc, je dirais, une jeune qui a des activités saines, qui est occupée, qui a un groupe d'amis positifs, va expérimenter, va vivre son adolescence, va faire ses expériences, mais dans un cadre sécuritaire. Le danger, évidemment, c'est quand une jeune va tomber sous l'emprise de gens qui, au départ, ne l'exploiteront pas, mais à partir du moment où elle est sous cette emprise-là, bien évidemment, la porte de la cage vient de se refermer.
Et ça, j'aimerais ça qu'on démêle tout ça parce que c'est pas évident. On a parlé beaucoup dans les dernières semaines de gangs de rue, de proxénètes. Est-ce que un et l'autre vont ensemble ou pas nécessairement? Et bien sûr, d'une part, avant tout, je pense qu'il faut préciser que toutes les fugues ne sont pas dues à une gang de rue ou un proxénète.
Non, écoutez, je pense qu'on peut parler de beaucoup de jeunes qui vont faire des fugues en réaction, c'est peut-être pas la bonne réaction, mais qui vont réagir à ce qui se passe à la maison et qui vont, dans le fond, c'est une espèce de cri de détresse. Là, alors on va tout simplement, ayant la difficulté, dans le fond, à gérer la crise, la difficulté, les frustrations, les conflits, le jeune va faire cette fugue-là. Je dirais, une gang de rue ou un proxénète, dans le fond, c'est, pour moi, ce qui est important, c'est un adulte, un jeune adulte ou un adulte qui va délibérément utiliser son pouvoir pour manipuler un jeune ou une jeune qui est finalement plus impuissant, qui a moins de moyens pour se défendre. Alors, c'est vraiment l'utilisation du pouvoir sur quelqu'un pour lui faire faire ce que, en temps normal, la jeune n'aurait pas nécessairement fait de façon tout à fait consentante.
Oui. L'une des façons de recruter ces jeunes filles-là, ou du moins de les attirer, de prendre contact, c'est beaucoup les réseaux sociaux.
Je pense, oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que dans le fond, les réseaux sociaux, il faut faire attention hein, parce que les réseaux sociaux, c'est pas juste quelque chose d'épouvantable et de dangereux. Je pense que les jeunes maintenant, à une époque, on se rencontrait au dépanneur, on se rencontrait au parc. Par la suite, on a passé des heures au téléphone. Donc, il y a toujours eu des espaces, des lieux où les jeunes échangent, se retrouvent. Les jeunes, on a tous eu besoin de sentir qu'on appartenait à un groupe. Et je pense qu'aujourd'hui, la technologie et le fait que les jeunes ont accès à la technologie facilement, dans le fond, ces liens sociaux-là, ces groupes sociaux-là, ils sont maintenant sur les médias sociaux. Et je pense que c'est très sain. C'est peut-être plus difficile à contrôler. Par contre, pour les adultes, le risque aussi l'espace virtuel, que ce soit le web ou que ce soit les médias sociaux, c'est qu'il y a très peu de surveillance. Il n'y a pas d'adultes présents pour s'assurer de la sécurité de ce qui s'y passe. Donc, les jeunes ont accès à la technologie, les jeunes sont sur les médias sociaux. Et évidemment, les gens qui veulent exploiter, profiter, trouvent des façons de s'y insérer. Sont très habiles à identifier les jeunes qui sont vulnérables et comment, dans le fond, les accrocher, comment leur faire miroiter leurs rêves et après ça, s'en servir.
Tout à l'heure, Alain, vous avez dit quelque chose qui, je pense, demeure la clé pour protéger nos adolescentes, c'est de les garder occupées. Un bon facteur de protection, pas nécessairement toujours facile à faire pour un parent. Est-ce qu'il y aurait d'autres facteurs de protection?
Moi, je vous dirais, écoutez, c'est sûr qu'un jeune qui est actif, un jeune qui se développe, un jeune qui vit des succès, un jeune qui s'implique, qui s'engage, qui est en contact avec d'autres jeunes, qui est en contact avec des adultes positifs, alors que ce soit bon dans le sport, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'engagement, dans la danse, donc un espace où le jeune va se réaliser, mais où le jeune va être en contact avec d'autres jeunes et adultes qui sont positifs et sains, je pense que c'est évidemment excessivement, c'est un très bon facteur de protection.
Mm-hmm.
Un autre facteur de protection, je pense, c'est d'amener un jeune à comprendre qu'il a la possibilité de dire non, de se fier à, je dirais, son instinct naturel. Quand tu es dans une situation où il y a cette voix intérieure qui dit « il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose de pas clair », donc de se faire confiance et de poser ses limites. L'autre facteur de protection, c'est d'être capable d'établir avec nos jeunes une relation de confiance où on va, nous comme adultes, être capables d'exprimer nos inquiétudes, mais où le jeune va pouvoir se sentir en sécurité et va pouvoir aussi exprimer ses questions, ses doutes, ses insécurités. Donc, une relation ouverte est un excellent facteur de protection.
Et d'égal à égal.
D'égal, je vous dirais, on sera toujours un entraîneur, on sera toujours un adulte ou un parent, mais de dire au jeune, tu peux me partager ce qui se passe. Je ne monterai pas au plafond. Les fusibles ne sauteront pas. On ne sautera pas tout de suite aux conclusions. On va prendre le temps de regarder ce qui se passe. On va regarder qu'est-ce que toi, tu peux faire pour que la situation s'améliore. Et si tu as besoin de mon aide, je vais être disponible.
Oui.
Et je dirais peut-être, sûrement le dernier facteur de protection, c'est la prévention. Donc, parler de sexualité, parler des médias sociaux, parler, je dirais, du respect, parler évidemment des risques, puis pas parce qu'on veut faire peur aux jeunes, mais parce que ce sont des réalités. On pourrait se poser la question, si nous, les adultes, on a vu depuis quelques semaines, dans les médias, on en a beaucoup parlé, les jeunes sont aussi conscients de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on en a parlé? Est-ce qu'on a posé la question à nos enfants? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis ça? Mm-hmm. Est-ce que ça t'inquiète? Donc, de profiter des occasions spontanément pour ouvrir ces conversations, ces discussions-là, je pense que c'est une très bonne façon de faire de la prévention.
Et parler de consentement sexuel, de respect, de limites, on le fait aussi avec les garçons, pas juste nos jeunes filles.
Oui, tout à fait. Dans le fond, comment... parce que malheureusement, il y a aussi des garçons qui font des filles, il y a aussi des garçons qui sont exploités sexuellement, on en parle un peu moins. Mais parler, dans le fond, de consentement, de relations saines. Et dans une relation saine, c'est d'être capable d'exprimer ce dont j'ai besoin, mais c'est d'être aussi capable d'exprimer mes limites. Comment on dit oui, comment on dit non, comment on a le droit aussi de changer d'idée, d'opinion, parce qu'à un moment donné, la situation devient quelque chose d'autre que je n'avais pas, auquel je n'avais pas pensé.
Oui.
C'est évident que pour tout adulte, parler de sexualité avec nos enfants, c'est pas nécessairement facile. Et je pense qu'un truc, c'est de dire, moi, j'observe des choses qui m'inquiètent, j'ai vu des choses qui m'inquiètent, j'aimerais ça qu'on en parle. C'est peut-être pas actuellement le bon moment, mais j'aimerais ça qu'on le fasse dès que tu vas être disponible. Donc, de laisser cet espace où le jeune va dire, effectivement, il faudrait que j'en parle. Et de ne pas avoir peur de dire, comme grand frère, comme oncle, comme voisin, comme grand-parent, comme parent, comme entraîneur, de dire, depuis un certain temps, je t'observe, j'observe des changements que je ne comprends pas, ça m'inquiète, j'aimerais savoir, et si jamais tu as besoin d'aide, je suis là. Donc, cette ouverture-là, et c'est pas parce que tu as peut-être fait une gaffe que je vais te juger ou que je vais que tu vas perdre mon affection ou mon amour.
Quels sont-ils ces signaux-là inquiétants, Alain Johnson?
Moi, je vous dirais, comme parents, on a tous un sixième sens. On l'a probablement jamais prouvé scientifiquement, mais on le vit. Dans le fond, un jeune dont le comportement va changer sans qu'on comprennent. Donc, un jeune va s'isoler. Un jeune va abandonner, par exemple, ses passions. Un jeune va commencer à avoir des activités qu'on ne connaît pas. Un jeune qu'on ne reconnaît pas. Et c'est peut-être juste un jeune qui vit un passage difficile. C'est peut-être juste un jeune qui est un peu déprimé. Mais devant ces changements-là, et on peut dire, telle journée, avant tu faisais telle chose, tu ne le fais plus. Avant tu étais souriant, tu chantonnais, tu étais toujours de bonne humeur. Maintenant tu es de plus en plus isolé, refermé sur toi. Ça m'inquiète, c'est peut-être pas grave, mais j'aimerais ça comprendre et qu'on en parle. Donc, de ne pas se gêner, parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, ça peut être même un collègue au travail, j'ai observé un changement, ça veut dire que tu es suffisamment important pour moi pour que j'observe, je note ce changement-là. Donc, tu as une valeur, tu existes pour moi. Et parce que ça m'inquiète, j'aimerais qu'on en parle puis qu'on puisse voir qu'est-ce qui se passe et possiblement t'aider au besoin.
On a beaucoup parlé des adolescents, Alain, mais il y a ses parents qui ont également besoin de ressources psychologiques, soit parce qu'ils sont très inquiets des changements de comportement de leur ado ou encore parce qu'ils ont vécu une fugue, au retour de l'enfant ou pendant l'attente du retour. Ces parents-là ont besoin d'encadrement.
Et je pense qu'on peut, je suis pas sûr qu'on peut imaginer, mais on peut se douter du drame et de l'enfer que ces gens-là vivent. C'est évident que pour les jeunes, il y a quand même un certain nombre de ressources qui existent, des ressources officielles, que ce soit par exemple, en milieu scolaire, au CLSC. Il y a évidemment Jeunesse J'écoute pour les jeunes qui veulent faire cette première démarche-là de façon confidentielle et anonyme. Malheureusement, pour les adultes, il y a peut-être moins de ressources, mais je pense que, comme parents, il faut rapidement aller chercher de l'aide, de ne pas se sentir honteux, de ne pas avoir l'impression qu'on n'a pas fait une bonne job de parent. Il faut demander de l'aide. Je pense qu'une ressource, c'est d'appeler notre médecin, d'appeler le CLSC s'il y a des ressources. Les gens qui ont la chance au travail d'avoir des programmes d'aide aux employés, c'est une possibilité. Les gens qui voudraient parler, par exemple, à un psychologue, on peut aller sur le site de l'Ordre des psychologues du Québec. Sur le site Internet, on peut trouver des psychologues dans notre région. Les gens qui ne savent pas quoi faire, qui sont démunis, je pense qu'il ne faut pas se gêner pour contacter les policiers de notre quartier. Dans le fond, je pense que le message aux parents, c'est cette détresse-là qu'on vit, avec toutes sortes d'émotions qui vont de la peur, de l'inquiétude, mais peut-être aussi la honte, le désarroi. Je pense qu'il faut prendre soin de nous-mêmes. Est-ce que dans notre entourage, on a d'autres adultes, d'autres parents qui pourraient devenir, dans le fond, une oreille pour nous écouter? Parce que des fois, ce dont on a besoin, quand on est dans l'attente, c'est tout simplement quelqu'un qui va prendre le temps d'écouter. Donc, c'est important donc de ne pas vivre ces situations-là ou ces inquiétudes-là en secret et en silence.
Bien sûr, Alain, on invitera les gens à vous joindre du côté de Jeunesse J'écoute. Oui. Est-ce que l'organisme a eu envie de se positionner? Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez lancer aux gens qui nous écoutent?
Moi, je vous dirais, ce que les parents peuvent faire, mais c'est évident que Jeunesse J'écoute s'adresse aux jeunes, mais les parents qui disent, je ne sais pas trop comment parler de certains sujets, un conseil qu'on peut faire, c'est de suggérer aux parents d'aller sur le site de Jeunesse J'écoute et d'aller lire, dans le fond, ce que nous, on dit aux jeunes. Ouais. Parce que des fois, ça peut nous donner le bon vocabulaire pour le faire après ça avec nos propres enfants. Le message de Jeunesse J'écoute, c'est dès qu'il y a une situation dans laquelle on n'est pas confortable, dès qu'il y a une situation qui nous inquiète, dès qu'il y a une situation où on se sent impuissant, la première chose à faire, c'est d'en parler. D'en parler à des adultes significatifs autour de nous. Et si ce premier pas-là est trop difficile, évidemment, il y a toujours Jeunesse J'écoute, qui est confidentiel, anonyme, gratuit, en français et en anglais, 24 heures par jour.
Vous nous en avez parlé aujourd'hui, Alain Johnson. Merci beaucoup, directeur des services cliniques chez Jeunesse J'écoute. Toujours un plaisir.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Patrick Despaquettes, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes microbiologiste agréé, biochimiste, président de l'Association des microbiologistes du Québec. Patrick, Zika, c'est sur toutes les lèvres depuis, bon, la fin du mois de janvier avec raison. C'est assez inquiétant.
Oui, bien effectivement, c'est un nouveau virus qu'on entend plus parler dans les derniers temps. Pas si nouveau que ça, parce que ça fait quand même depuis 1947 qu'on l'a découvert dans une forêt en Ouganda qui s'appelait Zika, d'ailleurs. Mm-hmm. Un virus qui se transmet par les moustiques, surtout confiné à l'Afrique durant des nombreuses années, mais qui s'est beaucoup disséminé à travers les îles du Pacifique Sud là, de 2007 à 2013 et aujourd'hui, en 2015, qui fait son entrée dans les Amériques.
Et il y a certains observateurs qui ont même osé dire qu'on en parlait peut-être davantage parce que quand ça se passe en Afrique, bah, c'est moins important, mais soudain, là, ça arrive près de chez nous et on a envie de s'y intéresser.
Mais ça, c'est un peu ce que vous décrivez là, le lot de beaucoup de maladies infectieuses tropicales. Moins elles nous touchent de près, moins on s'y intéresse, malheureusement. On l'a connu l'année passée avec l'Ebola.
Voilà.
Parce que ça aussi, c'est une maladie qui sévissait en Afrique depuis des décennies, mais qu'à partir du moment où on commence à y être plus touché, on s'y intéresse plus. Puis c'est un peu ça aussi qui se passe avec le Zika. Mais surtout, le changement, si on peut dire, de comportement du virus qui attire l'attention, sachant que c'était vraiment confiné dans certaines régions de l'Afrique avec des petites éclosions mineures. Et là, on a vraiment un phénomène là, qui émerge. Là.
Est-ce qu'on peut l'expliquer, ce phénomène-là?
Non, ben pour l'instant, pas encore. C'est une bonne question. Il y a beaucoup de microbiologistes qui se penchent là-dessus. Il y a différentes hypothèses qui sont formulées. Peut-être une mutation dans le génome du virus qui pourrait expliquer qu'il est plus capable maintenant de se disséminer. Mais pour l'instant, c'est encore des hypothèses.
Ça nous vient d'un moustique, ça, on le sait.
Oui, c'est un virus qui se transmet par la piqûre d'un moustique.
Et après, on ne sait pas trop si ça peut se propager entre humains. Je pense que l'OMS a émis une intention à savoir que peut-être l'usage de préservatifs serait approprié.
Bien, je vous dirais qu'au niveau de la transmission sexuelle du virus, c'est vraiment juste un cas isolé. Je pense que c'est au Texas que ça a été identifié, mais vraiment de façon majoritaire. On parle vraiment d'un virus qui se transmet massivement dans la population à travers les moustiques. Ou est-ce qu'un moustique pique une personne qui est infectée et ensuite va en piquer un autre? Et de cette façon-là, on a une transmission là, à l'échelle d'une population.
Et pourquoi l'OMS a décrété l'état d'urgence en lien avec Zika?
Mais vous savez, l'état d'urgence de l'OMS, c'est surtout un outil politique pour attirer l'attention de la planète, si on peut dire, hein, sur une épidémie en particulier. Puis l'état d'urgence incite souvent les pays membres à renforcer leur système de surveillance puis à agir plus rapidement, puis à déployer plus de ressources. Donc, c'est vraiment un peu un cri d'alarme pour conscientiser les gens et leur dire « Hey, portez attention, il se passe quelque chose qui est peut-être grave, peut-être pas, on ne sait pas encore, mais il faut y accorder de l'attention. » Puis depuis que ce mécanisme-là de l'OMS a été mis en place en 2007, il a été utilisé seulement 3 fois jusqu'à maintenant. La première fois en 2009, quand on a eu la grippe pandémique H1N1. En 2014, parce qu'à certains moments, il y avait une crainte de recrudescence de poliomyélite. Et sinon, en 2014 aussi avec l'Ebola.
Oui, voilà. Maintenant, Patrick, le temps file et je veux tout de même que l'on parle des conséquences donc de ces microcéphalies qui pourraient toucher des enfants de mères atteintes du virus Zika.
Oui, c'est ça. Il y a encore beaucoup d'incertitudes là, sur le lien entre le virus, la microcéphalie. On ne l'a pas démontré hors de tout doute, mais on l'observe que les populations où il y a une forte présence du virus Zika, il semble y avoir une forte augmentation aussi de microcéphalie. Ça, on comprend pas encore bien le lien, malgré le fait que la microcéphalie, ça cause des atteintes neurologiques très importantes chez l'enfant, des atteintes qui sont permanentes, parce que par microcéphalie, on parle d'un enfant qui va venir au monde avec un périmètre crânien qui est de beaucoup inférieur à la moyenne. Mais c'est surtout à ce niveau-là que l'OMS est inquiet, parce que l'infection au virus Zika, de façon très, très majoritaire, les gens n'ont pas de symptômes, et les peu de personnes qui vont en avoir, ça va être des symptômes qui ressemblent grosso modo à une grippe.
Voilà.
Mais par contre, quand c'est une femme qui est enceinte, surtout au niveau du premier trimestre, et là, on se rend compte que la conséquence chez l'enfant naître est très importante, et c'est surtout ça, je crois, qui vient vraiment motiver l'intérêt de l'Organisation mondiale de la santé à ce qu'on porte une attention particulière à cette épidémie-là.
Maintenant, comment on peut se prémunir de Zika si l'on voyage dans, la plupart des pays d'Amérique sont touchés. Comment on peut faire pour éviter le virus?
Pour l'instant, les mesures de lutte habituelles contre les moustiques sont encore ce qui est de mise. Donc, on va parler de porter des vêtements longs, utiliser du chasse-moustique à base de DEET, éviter de se retrouver à l'extérieur au crépuscule. Donc, pour l'instant, c'est vraiment tout ce qui va être des mesures de base pour se protéger des piqûres des moustiques. Et dans le doute, c'est toujours bien, surtout quand on voyage dans des zones tropicales, de consulter un médecin qui va être spécialisé en santé des voyageurs et qui va nous permettre un peu de mieux évaluer le risque auquel on s'expose, parce que là, on parle beaucoup du Zika, mais il faut savoir que quand on va dans des zones tropicales, il y a beaucoup d'autres virus et d'autres bactéries qui peuvent menacer notre santé. Donc, en discutant avec un médecin qui est spécialisé dans la santé des voyageurs, bien, ça nous permet d'avoir un meilleur aperçu des risques auxquels on s'expose, si risque il y a, et c'est quoi les meilleures mesures à prendre qui vont être adaptées à la réalité propre de notre voyage.
Est-ce que l'on peut espérer un vaccin très bientôt?
Très bientôt, je suis pas très optimiste. Dans les prochaines années, peut-être. Tout ça va dépendre de comment Zika évolue et comment il suscite de l'intérêt du côté des pays industrialisés puis qui ont les infrastructures pharmaceutiques, si on peut dire, pour développer ce type de vaccin-là. Mais j'espère dans les prochaines années.
Oui. Et en terminant, Patrick, est-ce que si l'on pense avoir été touché par le virus Zika, on doit le signaler soit à notre tour de voyage ou à des spécialistes de la santé lors de notre séjour?
Bien, c'est sûr que si on a des doutes sur notre santé, surtout si on a voyagé dans des zones où le Zika est endémique, communiquer avec son médecin de famille, communiquer avec Info Santé pour rapporter si on a des symptômes de, comme je vous disais, un peu de fièvre, des symptômes d'allure grippale, puis de toute façon, ce serait aussi des symptômes qui nous amèneraient à consulter, mais
voilà.
D'entrer en contact avec un professionnel de la santé pour nous éclairer, nous donner plus de renseignements.
Patrick Despaquettes, on peut vous suivre sur sciencepresse.qc.ca. Ça me fait toujours plaisir de vous parler.
Oui, pareillement.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. Bye-bye.